France Culture.
Talmudique. Laure Guilbert, bonjour.
Bonjour.
Laure Guilbert, je suis heureux de vous retrouver cette semaine pour poursuivre notre conversation autour de la danseuse Paula Padani, à laquelle est consacrée une exposition au Musée d'art et d'histoire du judaïsme intitulée « Paula Padani, la danse migrante, Hambourg, Tel Aviv, Paris ». Nous avons vu la semaine dernière sa période de formation et sa période dite palestinienne. Nous allons aborder aujourd'hui l'après-guerre et l'installation à Paris et sa philosophie de la danse. Et nous allons commencer immédiatement par ses tournées dans les camps de rescapés. En effet, après la guerre, dès 1946, Paola Padani va faire une série de tournées dans des camps de rescapés et de réfugiés organisés par le Joint. Qu'est-ce que le Joint et que furent ces camps de rescapés, Laure Guilbert?
L'American Joint Distribution Committee a été fondée en 1914 pour aider les Juifs du monde entier dans les difficultés qu'ils avaient, notamment durant la Première Guerre mondiale. Et puis, il joue un rôle absolument essentiel durant les années 30. Et il joue un rôle essentiel durant la guerre également, y compris aidant de manière clandestine les Juifs à survivre en Europe ou à quitter l'Europe. Et après la guerre, il fait partie de ces organismes humanitaires qui viennent aider les forces interalliées à accompagner les millions de réfugiés en Europe qui traversent l'Europe dans tous les sens, mais surtout de l'Est vers l'Ouest. Donc le Joint joue un rôle central. On prend conscience après-guerre que les besoins ne sont pas que matériels, que médicaux, même si c'est bien sûr la base fondamentale, ou que alimentaire. Il y a un besoin aussi de nourrir culturellement, spirituellement les gens, de leur redonner confiance, courage, effort, etc. Et le rabbin Bernstein, qui est donc le conseiller aux affaires juives du commandant Clay des armées américaines, a parfaitement compris cet enjeu-là. Il rencontre Paula Padani à Paris en 46. Paula Padani vient d'arriver à Paris, donc on est en octobre 46, juste après la fin du procès de Nuremberg. Elle arrive avec son mari, qu'elle a épousé en 1943, Michael Gottlieb Aram, peintre, décorateur de théâtre, ancien acteur de Brecht. Elle arrive à Paris et elle commence à donner quelques récitals. Le rabbin Bernstein la rencontre. Bien sûr, sa danse séduit à la fois le monde de la danse, parce que c'est une danse lumineuse, elle arrive dans une Europe en ruine, elle apporte une lumière qu'on n'a pas vue depuis longtemps dans ce monde. Le rabbin Bernstein la rencontre, comprend l'importance que sa danse peut jouer dans ce monde juif détruit, anéanti, cette modernité juive qui a été effacée de la carte de l'Europe. Il l'invite à participer à ses tournées morales, qui sont des tournées où le Joint invite des artistes vivant aux États-Unis, exilés ailleurs, à tourner dans les camps pour apporter leur art de la scène, acteurs de théâtre, Yablokov, musiciens, Benjamin Britten, Yehudi Menuhin, danseurs, Paola Padani, mais aussi d'autres, Katia Delakova, Fred Berg, des acteurs aussi, Molly Picon. Et donc, Paula fait partie de cet ensemble de tournées morales pour remonter le moral des rescapés. Elle-même va faire 3 tournées entre 47 et 48 dans une 60aine de camps de la zone d'occupation américaine devant un public de plus de 120 000 personnes en tout, des publics. Ce sont des tournées en solo qui se font dans une Allemagne en ruine où il est très très difficile de se déplacer. Elle-même se déplace, notamment au début, dans une ambulance qui transporte le piano qui l'accompagne. Elle danse donc dans ces camps de personnes déplacées, dont beaucoup sont des rescapés. Elle danse dans des conditions qui sont extrêmement plus que sobres, c'est-à-dire qu'il n'y a parfois pas de scène, il n'y a bien sûr pas de chauffage. Ça se passe parfois dans les salles à manger communes. Il n'y a pas de coulisses, c'est très difficile. Mais elle présente tout son répertoire créé en Palestine, qui est un répertoire donc d'une grande beauté, d'une plein de couleurs, plein d'histoires. Elle est profondément engagée dans sa mission. Les gens du joint remarquent ça. Il y a différents rapports qui parlent de ces récitals. Les gens disent à quel point elle est habitée par sa mission, qu'elle définit de la manière suivante. Elle dit, voilà, moi, je voudrais rendre confiance aux gens. Et c'est un moment absolument unique de rencontre, véritablement, entre, d'une part, les rescapés des camps qui sont porteurs d'une culture yiddish détruite, d'une culture juive détruite, mais qui sont porteurs de cet art, puisque eux-mêmes, à l'intérieur des camps, créent très vite, dès 45, dès la libération, leur propre troupe de théâtre pour remettre de la normalité dans ces camps de personnes déplacées, pour se préparer à une vie future où, oui, on veut croire qu'il sera possible de revenir à une vie normale. Et il y a cette rencontre entre ce monde juif qui continue à faire vivre cette culture détruite à partir de très peu de choses, bien sûr, puisqu'ils ont, ils ont peu de moyens pour travailler, et ils ont tous énormément souffert. Et puis de l'autre, Paula qui arrive de l'extérieur et qui apporte aussi cette modernité qu'elle a développée à son tour en Palestine, bien sûr aussi dans un contexte de guerre très tendu. Et il y a cette rencontre absolument unique, qui est une rencontre de regard, de retrouvailles. Le public est extrêmement fasciné, enthousiaste. Paula, en fait, en venant dans ces espaces fermés de ces camps, où les gens ne savent pas encore ce qu'il va advenir d'eux, ne savent pas quel sera leur avenir, puisque les frontières sont fermées de toutes parts, en Palestine, aux États-Unis, etc. Les tensions politiques sont très importantes. Et Paula leur ouvre un espace, leur montre que oui, il y a une fenêtre ouverte sur le monde, c'est possible. Et en même temps, elle leur permet de recréer, dans le temps du spectacle, des assemblées, une agora, où les regards convergent, on peut reformer une communauté chaleureuse. Donc elle joue un rôle qui est de l'ordre d'un geste humanitaire, où sa danse, tout en étant artistique, devient aussi une danse d'entraide, une danse de solidarité. Et elle permet à ces gens, elle redonne par sa danse et par son regard sur les rescapés, elle les aide à reprendre dignité. Donc il y a quelque chose qui est...
L'ordre de la réparation, on peut dire.
Qui est profondément de l'ordre de la réparation, qui entre profondément dans le projet de ces tournées morales et dans l'idée de aussi pouvoir revenir à des émotions positives. Elle rend aux enfants, aux orphelins, aux rescapés de tous âges, la possibilité de s'exprimer et de renouer avec des émotions positives, ce qui est fondamental.
Les lieux où elle danse ne sont pas anodins. Je pense à cet épisode de Nuremberg, au moment même du procès. C'est extraordinaire, Laure Guilbert.
Oui, elle fait une tournée à l'automne 47, notamment à Nuremberg. Ce passage à Nuremberg où se trouvent dans les environs de Nuremberg, trois camps de personnes déplacées et une espèce d'acmé de sa deuxième tournée. La ville de Nuremberg est placardée des affiches de son spectacle. Elle danse dans le théâtre de Nuremberg, qui a été le haut lieu d'ouverture des congrès du parti nazi dans les années 30, avant que tout se passe dans les grands espaces construits à cet égard, dans cet objectif, par Albert Speer, l'architecte de Hitler. Paula danse dans ce théâtre qui a été détruit par les Alliés intensément à la fin de la guerre, et qui a été reconstruit par les Américains. Le théâtre est réouvert. C'est impressionnant, ce moment-là. Le théâtre est rempli des personnes des camps de déplacés. Pour la première fois, la loge de Hitler est ouverte et occupée par des personnes des camps de personnes déplacées.
Il y a même les juges.
Il y a quelques juges du tribunal de Nuremberg. Les procès de Nuremberg viennent de se terminer. Il y a quelques juges qui sont là. Donc il y a aussi quelques artistes de l'opéra de Nuremberg qui fonctionnent, mais là pour les forces alliées, et qui est aussi devenu un cinéma. Donc il y a un moment impressionnant où Paula apporte en fait le nouveau monde, si je puis dire. Participe au monde libéré, participe à la libération, mais au sens très profond du terme, qui passe par le corps, qui passe par...
Le corps, le mouvement, le souffle.
Le souffle, exactement.
Et la joie, comme vous l'avez dit.
La joie. Et le fait de recréer une assemblée, ou une assemblée qui est fondée sur des valeurs humanistes, sur une modernité ouverte, c'est-à-dire une modernité ouverte au monde. Elle-même à voyager dans le monde, s'est ouverte au monde. C'est-à-dire, en étant bannie de son pays de naissance, elle a été obligée d'aller chercher ailleurs ce dont elle avait besoin, et c'est ce qu'elle apporte de nouveau sur place, dans ce théâtre de Nuremberg. Et donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle, sa danse efface, non, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas effacer, c'est-à-dire que les blessures ne sont pas effaçables, on peut les réparer, mais elles resteront toujours des blessures. Elle dit non à la modernité fermée, centripète, qui a été portée par son propre maître, Marie Wigman, à partir de 1933. Elle montre que elle-même, elle a participé à l'ouverture au monde, l'ouverture des routes artistiques, et là, elle revient pour aider les siens, pour leur montrer que la vie va dans le sens de cette ouverture et non pas dans ce qui a été fermé, verrouillé, cette polysémie verrouillée qui a été portée par les artistes qui sont restés dans le Troisième Reich.
On retrouve un petit peu une intuition que Blanchot exprime en littérature sur le sens du judaïsme comme exil, c'est-à-dire comme ouverture. Et comme si la force de ce judaïsme après les exils, c'est de montrer que l'exil n'est pas une punition, mais presque une bénédiction, parce que ça permet la rencontre avec d'autres cultures et une ouverture et l'apport d'un nouveau souffle. J'ai l'impression que c'est ce que transmet Paola Padani.
Je pense qu'elle transmet profondément ça, la créativité pour les exilés. C'est ce qui leur a permis de quitter la tristesse, d'avoir perdu, d'avoir été arraché à leurs racines, à leurs origines, à leurs appartenances. Et que la créativité permet de survivre, c'est-à-dire de vivre encore plus pleinement. Et c'est ce dont s'est emparée Paola.
On continue ce parcours, on est après la guerre, on est après ces camps de rescapés, de réfugiés. On est à Paris où Paola va habiter avec son mari, le peintre Michael Gottlieb d'Aram. C'est un couple, on a l'impression, un couple d'artistes heureux. Aram fut ami avec Kiesling, Shana Orloff, Natalia Goncharova, Larionov, Zadkine, Picasso, tout ça avant la guerre. Il fit les portraits de Jean Anouilh, d'Igmar Bergman, de Stieg Dagerman, de Moshe Charette et beaucoup d'autres, sans oublier sa femme Paola Padani. On a évoqué lors de la première émission le choix de son nom d'artiste, qui dit beaucoup de leur complicité. Je me suis demandé en quoi la peinture de son mari et la peinture en général influença l'art de la danse de Paola Padani. Et je me suis demandé peut-être qu'elle essaya aussi de danser les couleurs, même si Aram eut une période grise.
Oui, c'est un couple d'artistes de la modernité juive qui ont été très enlacés. Ils se sont rencontrés en Palestine très vite après l'arrivée de Paola en 1936. Un solo de Paola s'intitule « La rose de Charonne », de Saron en français. « La rose de Saron » qui s'inspire du Cantique des Cantiques et qui, je pense, est une forme d'écriture de leur histoire d'amour. C'est un très joli solo. Tout de suite, tous les deux ont été très liés dans leur parcours artistique. Michael Gottlieb a travaillé pour le Palestine Folk Opera à la fin des années 30. Lui-même a migré en Palestine en 32 après avoir subi des attaques antisémites. Donc c'est déjà un exil. Il était acteur et en même temps décorateur de théâtre. Et en Palestine, il développe ses talents surtout de décorateur de théâtre. Ensuite deviendra peintre après-guerre à Paris. Et tous les deux travaillent ensemble, font vraiment partie de ces réseaux de la modernité artistique de Tel Aviv. Ils travaillent dans les mêmes réseaux. Tous ces réseaux se croisent intimement, forment ce qu'on appelle les mondes de l'art et réinventent ensemble une autre modernité artistique hors d'Europe. Et Paola et Aram sont intimement intégrés dans cette communauté. Et donc, Aram va dessiner tous les costumes de Paola. Et également, il va, après-guerre, quand il va devenir, passer vraiment à une carrière de peintre, il va peindre régulièrement Paola qui s'amuse. Ensuite, je pense qu'il inspire Paola dans sa danse, dans la mesure où il a un travail sur les lignes qui est intéressant. Il comprend très bien le rapport de Paola à l'espace. Et je pense que dans ce travail sur, effectivement, ce rapport entre les lignes et les couleurs, c'est-à-dire les lignes, une forme de de rigueur dans le rapport à l'espace, de clarté, et en même temps les couleurs, c'est-à-dire cette expressivité qui explose. Je pense qu'il reçoit beaucoup de sa femme. Elle-même aussi se laisse accompagner par son mari. Donc il y a quelque chose de très beau que l'on retrouve notamment dans ces films que l'on voit d'eux dans leur atelier du 14e arrondissement, où Aram met en scène sa femme devant ses propres tableaux. Et Aram lui-même a toute une évolution où il passe de la peinture narrative, j'ai envie de dire. Il fait beaucoup de portraits, mais aussi de dessins, de portraits à l'huile, de dessins au crayon. Il a un très joli coup de crayon. Il fait des portraits quand il arrive en Palestine qui sont vraiment intéressants. Des portraits de juifs dans la rue, de personnes fumant le narguilé, voilà. Et puis, après-guerre, Aram accompagne sa femme dans le premier voyage dans les camps de personnes déplacées en 46-47. Tous les deux ensemble découvrent ce qui s'est passé durant la Shoah. Ils font partie des gens qui écoutent les rescapés. Ils reçoivent ces témoignages. Cela renverse profondément leur regard sur leur pays. Aram vient de la région de Bukovine. Sa famille a quitté la Bukovine en 1915 pour fuir la Russie. Ils se sont installés à Berlin. Ses propres parents, un de ses frères, sont décimés dans la Shoah. Et Aram et Paula découvrent l'histoire de leur famille décimée après-guerre à Paris. Tous les deux sont en lien avec l'école de Paris, beaucoup de peintres. Ils s'intègrent très très rapidement dans ces réseaux de la bohème artistique parisienne. Et Aram ne se remettra jamais de cette découverte. Il a tout un moment où il perd le lien avec la couleur. Donc il peint en gris les toits de Paris. Il ne peut pas faire autre chose que peindre en gris. Et il dit après qu'il va progressivement revenir à la couleur parce que la couleur, c'est la vie. Et c'est évidemment lié, en effet, je pense que vous avez raison, aussi à sa femme qui porte, par son expressivité du mouvement, la dimension de la couleur et du mouvement. Et il revient à la couleur, mais en même temps, il passe à l'abstraction. Et ces films qui les montrent, elle dansant devant les tableaux abstraits de son mari, sont in fine une très belle synthèse de leur long parcours artistique, puisqu'ils montrent à la fois à tous les deux leur quête d'une abstraction moderne dans le mouvement de la peinture ou de la danse, et la force d'amour de ce couple d'artistes.
Nous sommes en train d'entendre un chant klezmer par le petit orchestre de Dimitri Schenker à la clarinette, un instrument que jouait le père de Paola Padani et qui lui donna sans doute l'une de ses influences majeures en danse, à savoir la musique et la danse racidique. J'aime à me souvenir ce qu'écrivait Kafka dans son journal en 1911, après avoir vu Der Mechumad, La Bosta, une pièce donnée à Prague par la troupe du théâtre yiddish où se mêlent personnages en caftan, danse et chant. Je cite « Les mélodies sont longues, le corps se confie volontiers à elles. En raison de leur longueur qui se déroule en ligne droite, c'est en balançant les hanches, en écartant les bras, en les levant et en les baissant au rythme d'une respiration calme, en approchant les paumes des tempes tout en évitant soigneusement de les toucher, que les acteurs expriment le mieux leur caractère. Et Kafka poursuit, les deux personnages en caftan volent vers le chant, comme si de chanter étirait leur corps dans le sens de son besoin le plus spécifique, et le claquement de leurs mains, tandis qu'ils chantent, traduit de façon manifeste la plus grande santé de l'être humain dans l'acteur. Laure Guilbert, j'ai l'impression que ce texte est particulièrement inspirant et fait un très bel écho au travail de Paola Padani.
Oui, c'est très intéressant. J'ai envie de citer un solo qu'elle a créé en Palestine mandataire, qu'elle a intitulé « Devekut », et qui veut dire, dans les mots de Martin Buber, « le port de l'âme à Dieu », et qui se réfère bien sûr explicitement au mouvement hassidique. Paola, je pense, se relie à cette dimension-là, non pas parce qu'elle est pratiquante religieuse, elle a un rapport très douloureux à la Pologne qu'elle rejette, d'ailleurs, comme origine culturelle. Et elle fait un autre solo dont je vais parler également, qui parle de ça. Mais là, dans cette danse, ce qu'elle met en avant, c'est effectivement cette force intérieure du corps qui exprime la joie de vivre, la joie du rapport à la dimension spirituelle du monde. Et elle associe ça à un travail sur aussi la rythmique, une forme de transe. Elle a reçu de son héritage wigmanien la capacité de danser pour atteindre aussi l'extase. Wigman a pratiqué des formes de transe dans la danse qu'on relie en Europe à la modernité primitiviste, comme on dit. Paola fait une espèce de circule dans plusieurs approches du mouvement qui se relient à des formes d'extase. La modernité européenne, mais aussi tous les rythmes orientaux. La prière dans le monde séfarade aussi, la manière de bouger le corps en priant, qui est aussi quelque chose dont elle s'empare, il me semble. Sa famille serait d'origine espagnole, donc elle relie tous ces mondes. Et puis, il y a aussi voilà, les folklores yéménites, etc. Et je pense que dans son besoin d'utiliser ces rythmiques extatiques dans sa danse, elle circule dans plusieurs cultures. Mais c'est vrai aussi qu'elle a un rapport très douloureux à la Pologne, puisque sa famille soit a quitté la Pologne pour aller vers les États-Unis et le Canada, soit est restée en Pologne et a été décimée par la Shoah, soit a réussi à partir avant, comme ses parents qui se sont installés à Hambourg. Et du coup, elle se relie beaucoup plus à la culture assimilée judéo-allemande qu'à la culture yiddish polonaise. Mais ce qu'elle garde et qui est très précieux pour sa danse, c'est ça, cette essence-là de ce rapport à un corps organique capable de se laisser saisir par la vie.
Vous avez dit qu'il y a un deuxième solo dont vous vouliez parler.
Oui, alors ce deuxième solo, elle l'intitule, il y a juste une photo dans l'exposition qui la montre dans une grande tenue, une espèce de grande cape grise. Ce solo s'appelle La fuite ou Le vol ou quelque chose comme ça. Et tel que j'ai compris, c'est difficile, on a quelques traces à peine, c'est très fragmentaire, donc il faut naviguer pour l'interpréter. Mais ce solo s'appuie sur une citation d'Isaïe, du prophète Isaïe, qui dit « Ne juge pas celui qui fuit » et qui en gros dit « voilà, protéger les fuyards » et qui parle à la fois de ces Juifs d'Europe de l'Est qui ont été ployés par les persécutions et que les sionistes très très engagés critiquent. Et elle, mettant à distance cette origine polonaise qui est compliquée pour elle toute sa vie, c'est très compliqué pour elle, on sent quand même qu'elle fait œuvre aussi bien sûr de bienveillance parce qu'elle sait qu'elle est aussi originaire de là d'une certaine manière, même si elle est née à Hambourg. On sent que durant sa vie, elle a des moments où elle se relie à ses racines, même si cela lui fait mal. Et c'est ce qu'on va voir également dans les camps de personnes déplacées où elle se relie et s'identifie assez aux rescapés.
Il y a une autre passion pour Paola Padani, il y a la danse, mais toute sa vie, c'est l'enseignement de la danse qui fut sa grande passion. Et je me suis demandé qu'est-ce qu'elle transmettait à ses élèves, peut-être justement quelque chose de la réparation qui passe par l'extase et la joie, comme vous l'avez évoqué, Laure Guilbert.
Paola Padani a été une enseignante très heureuse d'enseigner. Elle a enseigné toute sa vie, finalement, dès son départ en exil, en Palestine et à Paris. Après ses nombreuses tournées, à partir de 1949, elle reprend l'enseignement. Elle enseigne d'abord à des professionnels, notamment au studio Wacker. Elle est très liée au milieu de la danse moderne américaine, puisqu'elle a fait aussi une tournée très importante à New York en 1948. Et après la naissance de leur fille, Gabrielle Gottlieb de Gail, elle passe à l'enseignement pour les amateurs. Et elle enseigne jusqu'à plus de 80 ans dans différents studios. Elle n'a jamais possédé studio, elle a toujours loué des salles dans des studios d'artistes. Et elle a gardé une espèce de légèreté de mouvement qui est très intéressante aussi parce qu'en tant qu'artiste migrante, finalement, elle avait besoin de rester dans une structure légère. Et elle dit elle-même, voilà, pour moi, travailler avec des amateurs, cela me remplit parce que je me relie à des personnalités de tous horizons. Elles me remplissent de leur richesse et je trouve un équilibre dans cette vie où je m'occupe de ma famille, je transmets la danse par l'enseignement, mais aussi par des conférences, elle donne des conférences, et elle transmet un enseignement qui est celui qu'elle a construit au fil de son parcours, donc qui a évolué par rapport à ce qu'elle a reçu, mais elle continue à transmettre l'improvisation, à travailler sur l'expressivité du mouvement, elle apporte aussi ses propres recherches, elle a fait aussi du classique avec la grande artiste russe Preobrajenskaya, elle-même exilée de la Russie bolchevique, elle a fait du yoga, enfin, mais elle fait sa propre synthèse une fois de plus. Mais ce qui est très intéressant et je trouve très fort, c'est qu'elle n'est plus du tout sous les feux de la rampe, sous la lumière. Elle entre dans un parcours de vie tout à fait modeste, j'ai envie de dire, sans chercher la notoriété. Mais elle est heureuse de ce qu'elle fait. Elle le vit pleinement. Et elle se relie à ses élèves qui, certaines, la suivent durant plusieurs décennies. Donc elle a une équipe, un groupe d'amateurs fidèles adultes et aussi d'enfants, tout à fait unique. Elle se relie à elle dans une relation d'altérité d'égal à égal. Et je crois que c'est là où est finalement sa philosophie. C'est que, à mon sens, elle porte complètement le message de Martin Buber, de cette relation entre le je et le tu, c'est-à-dire que on est dans la rencontre avec l'autre, dans la recherche de l'autre, dans un rapport d'horizontalité et non de verticalité, comme ça a été le cas de finalement sa mère artistique Marie Wigman, qui a coupé avec l'altérité. Et Paula se positionne de cette manière, dans le choix qu'elle a fait avec son mari de s'installer à Paris après les tournées dans les camps de personnes déplacées. Donc, c'est ça aussi qui est très intéressant. Ils auraient pu rentrer en Palestine, devenir israéliens après la création de l'État d'Israël. Ils étaient là dans une position réellement de centralité en tant qu'artistes, tous les deux. Et finalement, de fil en aiguille, ils ne savaient pas exactement, quand ils sont venus en Europe, ce qui allait se passer. Il n'était pas prévu qu'ils restent en Europe. Mais finalement, ils ont fait ce choix. Après avoir subi des migrations contraintes, ils font ce choix volontaire de rester en France, de prendre la nationalité française et de s'installer définitivement en diaspora, pas dans leur pays d'origine, mais à Paris. Donc il y a quelque chose aussi, encore une fois, d'un déplacement, mais là qui devient plus serein, et qui est de simplement s'intégrer et à leur tour d'entrer dans une normalité, dans une simplicité, et qui est très belle puisque c'est leur vie.
Laure Guilbert, il y a une question lancinante qui revient quand on vous écoute. On entend cette vie et cette œuvre si riche et si féconde. Pourquoi Paola Padani fut-elle oubliée? Et quel espoir pour cette œuvre aujourd'hui au-delà de cette exposition?
Elle a été oubliée pour plusieurs raisons. D'une part parce qu'elle-même a migré d'un pays à l'autre. Donc nécessairement, on est oublié de facto. Donc c'est une mémoire qui s'efface par elle-même. Ensuite, même si elle a laissé des traces quand même partout où elle est allée. Ensuite, elle a été oubliée de la mémoire culturelle. Et ça, c'est une question plus grave dans la mesure où la manière dont l'histoire de la danse s'est écrite après-guerre en Europe. Cette histoire de la danse est écrite avec la parole des artistes qui sont restés sous le Troisième Reich et qui ont réécrit leur histoire pour se présenter comme les nouveaux héros de la scène artistique de l'après-guerre. Et cette histoire n'a été que récemment déconstruite et elle n'est pas complètement déconstruite encore. Donc l'histoire des exilés a été doublement oubliée, d'une part au moment du départ des exilés dans les années 30, mais également après-guerre, dans la manière dont les mémoires se sont transformées. Et le fait que cette collection de Paula Padani soit arrivée au MAJ et puisse être valorisée sous la forme d'une exposition, c'est une manière de rééquilibrer ces mémoires culturelles, de réintégrer la mémoire de Paula dans l'histoire de la ville de Paris. Et c'est une chose qui est très importante et qui fait écho à cette citation de Walter Benjamin au départ, qui, dans un essai « Expérience et pauvreté », disait combien, avec la Première Guerre mondiale, à cause de la violence de cette guerre, on a perdu la manière de transmettre l'expérience. Et le fait que cette collection revienne au MAJ, arrive au MAJ, c'est une manière de redonner un espace d'écoute à l'histoire d'une artiste oubliée, et donc de rééquilibrer les mémoires, mais également l'histoire.
Merci Laure Guilbert pour cette deuxième semaine de riches conversations et cette belle découverte de Paola Padani que l'on peut poursuivre en allant voir cette exposition intitulée Paola Padani, la danse migrante, Hambourg, Tel Aviv, Paris, une exposition qui se tient au Musée d'art et d'histoire du judaïsme jusqu'au 16 novembre 2025. Plus de 250 photos et documents, on l'a compris, absolument passionnant. Et je rappelle aussi le titre de votre livre, Danser avec le Troisième Reich, les danseurs modernes et le nazisme, paru en 2000 et qui va reparaître en 2026. Un livre qui met en lumière le rôle méconnu joué par la danse dans la politique artistique du Troisième Reich. Merci encore, Laure Guilbert.
Merci beaucoup.
C'était Talmudique, une émission de Françoise-Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui Delphine Baudet, à la réalisation Alexandra Malka. Vous retrouverez toutes les indications biographiques et bibliographiques de notre invité sur le site de France Culture, à l'onglet Talmudique, Koltouv, Leitraot. Au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.